dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne. Sagesse ancienne qui comprend les traditions initiatiques du passé et les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, avec David, nous allons vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors on va commencer, on va ouvrir notre dictionnaire et je suis tombé sur la lettre M aujourd'hui. Alors M, le premier mot sur lequel je suis tombé, c'est le mot mirage. C'est étonnant de lire ça dans un dictionnaire de sagesse ancienne. Un mirage, ça évoque un phénomène visuel qui se passe dans le désert, hein. On croit voir quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit n'est qu'un reflet déformé de la réalité. Et en fait, ce mirage peut s'appliquer à cette idée, hein, peut s'appliquer à la personne humaine. Le mirage, ce serait ce qui fait que nous percevons la réalité différemment de ce qu'elle est. Évidemment, ça pose la question de savoir qui est le nous. Quel est ce nous qui se perçoit différemment ? Ça va loin tout ça, David.
Oui, ça va loin. Techniquement, c'est vrai que le mirage est un terme très précis dans les enseignements ésotériques modernes. C'est l'illusion sur le plan affectif et émotionnel, le plan de l'imaginaire. C'est le mirage. Alors, c'est une sorte de rencontre entre l'instinct du physique et l'intellect du mental. Sur le plan émotionnel, on crée quelque chose d'artificiel qui est le mirage. C'est pas vraiment de l'instinct, c'est pas de l'intellect, c'est du désir imaginaire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'activité de nos émotions qui crée ce mirage ?
Oui, on peut dire que fondamentalement, d'un point de vue ésotérique, la conscience est pure. Alors elle se revêt de pensées, d'émotions, de sensations physiques. Et ce sont des sortes de voiles qui empêche la conscience d'être en lien direct, sans entrave, avec la réalité extérieure. Donc les différentes émotions, peur, colère, jalousie, les différents sentiments,
les désirs en général,
les désirs, tout notre imaginaire, on voit comment on s'imagine des choses, et on se rend compte après, grâce à la réalité physique extérieure, que ce n'était pas réel. Qu'on s'est fait, on parle de château en Espagne, on a toutes sortes d'expressions comme ça. Et bien c'est ça le mirage. C'est tout ce qu'on croit être réel, qu'on fait sien, mais en fait, c'est une production, c'est une création de nous-mêmes.
Mmh. Donc, par exemple, on entend les jeunes dire « me regarde pas comme ça ». Donc, tu regardes un jeune, c'est un exemple que je donne évidemment, hein, c'est pas pour stigmatiser. Tu regardes un jeune et il va projeter sur ton regard, sur toi, des choses. Et avoir une impression émotionnelle de ce regard et, par exemple, avoir l'impression qu'on lui veut du mal, mettons.
Oui, par exemple.
Et il va dire « me regarde pas comme ça ». Il invente dans son émotion quelque chose qui n'existe pas, éventuellement. Hein.
Bien sûr. Et mais on voit des mirages très très ancrés depuis des milliers d'années, comme le racisme, c'est un mirage. L'idée qu'il y a... Alors, les races existent, mais l'idée qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres qui leur sont inférieurs, etc. Il faut parler à telle personne, on peut pas avoir des amis qui appartiennent à tel peuple, telle race, etc. On a aussi le misogynisme, on voit la difficulté dans le monde politique, par exemple, pour les femmes, ou même dans le monde du travail, tout ça. Donc d'accéder à une réelle égalité, tout ça est fondé sur le mirage. Le fait aussi qu'on ne partage pas convenablement les ressources dans le monde, c'est fondé sur un mirage profond qu'on est séparés les uns les autres, parce que l'Africain ou l'Asiatique ou celui qui vit en Amérique du Sud n'est pas de ma famille biologique, on a l'impression que ce sont des gens complètement séparés de nous. Donc c'est le mirage de la séparation. Donc il y a toute forme de mirage comme ça qui fondent même des cultures, hein, qui sont ancré profondément dans les cultures, ou même dans les familles. On voit que les familles ont des mirages collectifs.
Alors, il y a un grand mirage aussi, c'est celui de la peur.
C'est peut-être le mirage fondamental, en fait.
Donc, on a peur de l'autre, en l'occurrence, hein, pour reprendre l'exemple que tu donnais, on a peur de l'autre s'il est différent, on a peur de manquer, donc on va pas partager nos ressources, on va les accaparer, même si les autres meurent de faim sur Terre.
Dans cette société de compétition, on va avoir peur de ne pas réussir, parce qu'on nous impose un mirage, un modèle économique, où on a à être super performant, à réussir dans tout et à écraser l'autre, hein, à être en compétition. Donc, ça, c'est un mirage planétaire, fondamental.
Donc ça fait partie des mirages collectifs. Il y a des mirages collectifs et des mirages individuels, on peut dire.
Oui, et on se rend compte que même dans les mirages individuels qui sont. Ils sont en grande partie influencés par le mirage national, ou alors carrément planétaire, hein, mais le mirage propre au pays, proprement dit. On va dire par exemple que les Français sont assez arrogants, orgueilleux, râleurs, critiques. C'est assez vrai quand même de façon générale, hein. On a les mirages qui vont être plus liés à la région même, ou alors carrément à la famille et au mode d'éducation aussi. On nous impose des choses, enfin, c'est transmis de génération en génération, et on prend ça pour acquis, pour vrai. C'est ça, en fait, le mirage, c'est qu'on pense vraiment que c'est réel, qu'on l'a choisi. On entend aussi souvent ça, moi je veux pas changer, je suis comme ça. Mais en fait, c'est complètement conditionné. Et alors, c'est pas comme l'illusion qui est purement intellectuelle. On va voir ça chez les scientifiques qui ont des illusions. Précise sur des choses, mais là c'est purement vraiment c'est de l'ordre de la pensée, alors que le mirage part du corps émotionnel et il se revêt de pensée, c'est-à-dire on croit qu'on pense, mais en fait l'origine est vraiment affective, émotionnelle, imaginaire. C'est ça le propre du mirage. C'est pas intellectuel à proprement parler, bien que ça peut apparaître comme des pensées, des réflexions, mais en fait on se rend compte qu'à la base c'est quelque chose de purement émotionnel.
C'est automatique, ça se passe en nous, malgré soi. Alors je suppose qu'on arrive à travailler dessus, à quelque part essayer de tenter de maîtriser un tant soit peu ses émotions. Donc nous on va dire son corps émotionnel, mais ça veut dire maîtriser ses émotions. Hein, puisque le mirage émotion, on peut dire quand même que c'est on peut faire la correspondance, un hein, mirage égale émotion.
Oui, mais parfois on n'a pas forcément le vécu de l'émotion, ou elle peut être complètement lointaine, parce qu'on met en place des carapaces, des systèmes de défense, alors que le mirage est bien là. Alors,
Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ce mirage dans ce cas-là.
non, et on n'a pas forcément un vécu émotionnel qui s'apparente.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de symptômes émotionnels?
Voilà, on n'a pas forcément. Je sais pas, celui qui va vous dire froidement, voilà, qu'il est raciste, parce qu'il pense, je sais pas, moi, par exemple, que les noirs sont ceci, sont cela. Il n'a aucune émotion à la rigueur, hein. Il peut dire, voilà, moi, je trouve ceci, cela. Et en fait, il est plus en contact avec différents états émotionnels qui sont parfois fort lointains et qui l'ont conditionné. Il croit qu'il pense. Mais on a aussi des mirages qui sont tournés vers le physique, hein. Je sais pas, moi, ça peut être vers les plaisirs sensuels, sexuels, vers les besoins matériels, la frénésie de s'acheter des choses. On parle de fièvre acheteuse, hein, de consommer. C'est une forme de mirage, mais qui est tournée à ce moment-là, pas vraiment vers le monde affectif. Par exemple, les mirages affectifs, c'est quand on est dépendant émotionnellement de quelqu'un. C'est un mirage, en fait, hein. On vit pas pour soi-même, on vit pour l'autre, ou on croit qu'on aime, mais en fait on est dépendant et on attend des bénéfices secondaires à un point de vue affectif. Mais on a aussi donc des mirages qui sont tournés vers le monde de la matière. Et là on a toutes sortes de mirages. Et il y a des choses aussi qui peuvent être très très bien. Je sais pas, par exemple, prenons le sport. On fait du sport pour être en bonne santé, mais on peut faire on peut être comme surdosé. On rentre à ce moment-là dans une forme de dépendance affective au sport, par exemple. C'est une forme de mirage, en fait. C'est dès qu'on donne trop d'énergie à quelque chose, même une qualité à l'excès peut devenir un mirage. Et je pense qu'il faut commencer à considérer que le mirage existe, qu'on a donc ces formes de, comme tu disais, dans le désert, hein, ces images. On a des images de la réalité, des gens, des autres, de soi-même. Et il faut commencer, je crois, à considérer qu'on est dans le mirage et commencer à voir Quels seraient les mirages qui me gênent le plus, qui m'empêchent de m'épanouir, d'être plus libre? Et là, on commence un travail intéressant d'observation, sans jugement. En fait, il faut d'abord conscientiser, il faut accepter après son mirage, et au fur et à mesure ne plus le nourrir, pour qu'au fur et à mesure, on s'en libère. Mais ça prend des mois, ça peut prendre des années. C'est un travail long et difficile, et en général qu'on ne fait pas, et c'est plutôt la vie ou les gens qui nous forcent souvent à se modifier. Sinon, la nature humaine fait qu'on resterait tel qu'on est. On dirait, bah, voilà, je suis comme ça, d'ailleurs, c'est ce que les trois quarts des gens disent. Je suis comme ça, on va pas me changer. Bah, non, c'est dommage. On peut changer.
Parce que donc les mirages gênent notre action sur le monde, notre capacité d'épanouissement, notre capacité de faire, d'agir, de créer.
Oui, je pense que c'est à l'origine. C'est un peu ce que disait le Bouddha, hein, quand il disait que le désir crée la souffrance, hein, dans ces quatre nobles vérités, hein, que la vie sur terre est souffrance parce que elle est fondée sur le désir. Et on ne peut pas être heureux, on ne peut pas rendre les gens heureux, on ne peut pas vivre heureux sur terre si on vit en fonction de nos désirs. On pourrait donner le synonyme mirage. Le mirage, c'est quelque chose qui, en fait, nous fait souffrir. Et c'est quelque chose qui fait souffrir le monde, qui fait souffrir les autres. Si on considérait qu'on est tous unis, parce qu'on est réellement unis, il n'y aurait plus de misère sur Terre, ce mirage disparaîtrait. Alors pour l'instant, ça nous semble très compliqué, mais en fait, c'est pas du tout compliqué. C'est un mirage de croire que c'est compliqué et de croire que c'est une fatalité. Donc on voit comment on est conditionné à plein de niveaux.
Alors ce on, si on revenait sur ce on, justement, quel est ce on, quel est ce moi qui est baigné qui baigne dans ce mirage?
On peut considérer la conscience comme un état pur, un état vraiment de perception pure. Et donc sur le plan de l'âme, hein, sur le plan de l'individualité profonde. Et la conscience utilise donc la pensée, l'émotion, le corps, et qu'à chaque niveau, elle peut être emprisonnée par ces trois états différents. Et dans l'ésotérisme, donc on parle d'illusion pour le mental, de mirage pour le corps émotionnel, et on va parler de maya, c'est-à-dire d'illusion physique, c'est-à-dire toutes les restrictions physiques que l'on peut avoir. Mais derrière, donc, il faudrait considérer que la conscience peut être vécue en dehors de ces états-là, et que plus on purifie, on transmute,
Donc
on raffine.
c'est moi en tant que conscience, avec un grand C, qui ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est à cause de ce corps émotionnel, qui est un corps d'incarnation, hein. On a déjà parlé à ce micro, hein, qu'on a non seulement un corps physique, chacun d'entre nous, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental. Le corps émotionnel, c'est le corps à travers lequel se vivent les émotions. Et donc ce corps-là étant non maîtrisé, il donne des informations fausses à la conscience.
Oui, si tu prends l'exemple d'un très bon conducteur, tu le mets dans une voiture avec un embrayage défectueux, il pourrait être un très bon conducteur, l'embrayage est défectueux. Donc son véhicule ne fonctionne pas bien, ou ses freins, peu importe l'accélérateur. Donc voilà, donc la conscience serait le très bon conducteur, mais le véhicule n'est pas complètement adapté. Alors l'idée, bah alors si on continue l'image, c'est de le réparer, c'est de le transformer. Donc c'est ça un peu, hein. Le but de l'évolution serait de raffiner, transformer, transmuter les différents niveaux de notre être. Et plus on les raffine, plus le voile devient de plus en plus subtil jusqu'à disparaître pour permettre, comme pour un maître de sagesse, d'avoir une conscience totale et plénière sur chaque plan mental. Le plan de la sensibilité, on devrait l'appeler comme ça, plus le plan émotionnel, parce qu'il n'y a plus d'émotion, c'est de la sensibilité, c'est de l'amour pur, et le plan physique.
Alors, comment on peut se faire cette réparation? Quel type de garagiste faut-il aller voir?
Sa conscience, je pense. Je pense que sa propre conscience. Donc, je dirais vraiment observer, accepter ce que l'on voit, et puis après s'en libérer, s'en détacher. Il faut vraiment faire ce processus. Alors après, il y a des outils, c'est vrai, il y a des techniques, mais ça serait pas le cadre ici pour en parler forcément. Mais il y a des moyens après
Donc observer,
d'investigation.
ça veut dire qu'il faut utiliser l'outil du mental pour voir ces mirages qui relèvent de l'émotionnel, c'est ça que tu veux dire?
Oui, la conscience mentale, mais sans jugement à ce moment-là. C'est vraiment observer. C'est un petit peu ce qu'on faisait dans les religions avec l'examen de conscience, dans la religion chrétienne par exemple, et dans d'autres religions. Le fait d'observer, d'analyser. Moi, je dirais aux auditeurs, on vous renvoie souvent des choses, bah observez-les. Il y a une part de vrai dans tout ce que les gens nous renvoient.
On vous renvoie, tu veux dire, lorsqu'on nous fait des remarques, t'es comme
voilà,
ci, t'es comme ça.
Au travail, dans la famille, dans le couple, on ne peut pas se défendre de ça. Il y a une part de vrai, surtout si c'est récurrent. Et si c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui vous renvoient des choses, c'est du matériel à exploiter. Et si on est sincère avec soi-même, on peut se rendre compte que ça nous pourrit la vie, en quelque sorte, et qu'on peut le transformer. Si on accepte qu'on a du mirage, si on accepte le mirage, on commence déjà à travailler dessus. On commence déjà, je pense, à se libérer d'un problème quand on accepte que c'est un problème.
Vous écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne et nous sommes à la lettre M pour cette émission avec David. Et voilà, donc j'ai trouvé le mot mantra. Mantra, c'est un mot assez connu qui désigne en fait une sorte d'outil qui consiste à répéter dans sa tête quelque chose. Ça peut être à voix haute, ça peut être à voix basse, ça peut être simplement le penser. Et répéter une phrase ou un mot qui va nous aider à maintenir notre concentration dans le processus de méditation.
Ça peut être un outil méditatif, c'est vrai. Il y a une dimension, on dit mantrique, c'est rythmique. Donc il y a le rythme du mantra. L'effet sonore qu'il doit produire. Et puis l'intention, la concentration, voire la visualisation qui va avec. Et on dit que quand ils sont réunis, le mantra, c'est une forme de formule syllabique qui va avoir donc un effet, une résonance énergétique. D'ailleurs, il y a l'idée que les sons sont des vibrations.
Ça rejoint la force, la puissance du son alors. Alors on dit aussi qu'un mantra doit être activé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Souvent, le mantra dans la tradition orientale était donné par un maître à son disciple, et le maître donnait le mantra qui correspondait correctement à l'énergie du disciple. Et souvent, il n'y en avait qu'un, et il lui apprenait à l'utiliser correctement. Et un mantra activé, c'est un mantra qui est déjà utilisé correctement. Et souvent, c'est un mantra qui doit être chargé. L'idée, c'est qu'il a été utilisé parfois pendant des millénaires, qu'il a été répété X fois. Donc il crée une sorte de forme pensée, d'énergie collective. Et on se branche en quelque sorte dessus. Et on alimente encore l'énergie.
Une sorte d'égrégore.
Voilà. Et donc, il y a des mantras comme ça. Si on prend le Om, qui est le mantra de base en sanskrit, hein, qui est censé être le son universel. Alors, on l'écrit parfois A-U, parce que A et U font O en sanskrit. Mais il y a aussi les trois modes d'articulation. Le A dans la gorge, le U dans le palais, c'est une labiale, dans les lèvres. Et puis le M qui résonne, A-U-M. C'est le O qui est plutôt une sorte de diphtongue, c'est-à-dire un mélange entre A et U, hein, qui est plus au milieu de la gorge. Donc l'idée dans le Aum, c'est qu'on a en fait une forme de dégradé, qu'on a tous les sons. On dit que ça a donné Amen. Donc à partir du Aum, on a après créé toutes sortes de mantras. Om Mani Padme Hum, comme les bouddhistes tibétains l'utilisent. Et là, ça représente Om, salutation du joyau dans le lotus, avec Om à la fin.
Donc ça veut dire que si on prononce ou si on pense intérieurement cette phrase ou ce mot, on se relie à une forme pensée existante, un égrégore, et automatiquement, quelque part, ça va avoir un effet, enfin, ça va, comment dire, donner de la puissance à ce qu'on est en train de faire. Et notre mantra va avoir d'autant plus de force qu'il va se relier à une forme pensée existante déjà, quoi, qui est déjà elle-même forte.
Oui, techniquement, on appelle des énergies spécifiques, en fait. On invoque. Le mantra a un pouvoir, invocatoire. Le type de mantra, le son qu'il va produire, va invoquer telle énergie et avoir donc tel, effet sur nous ou sur l'entourage. Il y a des mantras pour purifier, pour bénir, pour guérir, pour toutes sortes de fonctions. Ça dépend de l'intention qu'on y met. Il y a des mantras pour s'identifier à sa nature divine, comme le soham, par exemple. Je suis cela, ams, amsa ou amtat. Ayamzat, on dirait en anglais. On voit que l'anglais est proche là du sanskrit. Je suis cela. Donc, il y a toutes sortes de mantras qui ont donc des actions différentes. Alors souvent, c'est utilisé aussi dans la tradition occidentale comme une méthode. Ça, c'est le premier niveau. De répétition pour calmer le mental.
Ah oui, c'est
On...
ce qu'on appelle un japa, non?
Voilà, le japa pour l'Orient, et puis nous, par exemple, les rosaires, ce genre de choses, les Je vous salue Marie, ou
Qui sont
les
répétés,
Notre Père.
répétés, et qui sont un moyen de calmer le mental, non?
Voilà, mais ça, c'est l'utilisation la plus prosaïque, je dirais, du mantra. Et au fur et à mesure, on peut rentrer dans, comme une méthode de méditation, voire comme une méthode pour s'identifier à sa nature profonde. Par exemple, on peut prendre même des phrases. Je pense aux soufis qui prennent le mot Allah et qui le déclinent avec de différentes manières, qui s'en servent comme un mantra. Où il y a des phrases de Jésus qu'on peut utiliser comme mantra. Le Père et moi, nous sommes un. Ça peut être un mantra. Mais l'idée, c'est qu'on va pas le répéter que ce fois, mais qu'on va s'identifier au sens. Et là, on voit l'importance de la concentration, de l'identification. Hein. On
On
va
va le dire avec intention, avec une compréhension profonde de ce qu'il signifie et de ce qu'on cherche à faire avec.
Oui, ça
Donc
devient une
là par
affirmation.
exemple, c'est affirmer que je suis un avec Dieu, c'est ça, que je fais
Voilà.
partie de Dieu.
Le Père et moi, nous sommes un. Je ne dois pas être extérieur à ce que je dis. Et si je suis vraiment intériorisé, associé, identifié à ce que je dis, je peux vivre ce lien qui existe en dehors du mantra. Hein, l'idée, c'est que le mantra réaffirme quelque chose qui existe déjà. Donc ça, c'est une version beaucoup plus subtile du mantra. Et puis il y a des mantras qui, parfois, en Orient, qui sont utilisés pour invoquer telle énergie, donc tel rayon, tel aspect particulier d'énergie. Et on s'identifie, il y a un mantra pour Ganesh, par exemple, en Inde, des mantras pour certains bodhisattvas, pour le bouddhisme, etc. Donc il y a vraiment une science du son, une science du mantra. Il y en a qui sont utilisés, on voit ça aussi par différents chamans, hein, qui utilisent des sons, des chants pour guérir. Ou parfois pour sanctifier, pour bénir des choses. Donc
Est-ce
on...
que c'est avec le son que les Égyptiens bâtissaient les pyramides, comme certains le disent?
Oui, c'est ce qui est dit dans les enseignements ésotériques, c'est que le son peut avoir un pouvoir magique, entre guillemets, qu'il peut défier les lois de gravité, qu'il peut créer une forme de vide dans l'espace, donc au point de pouvoir déplacer des énormes blocs de pierre, de leur enlever leur gravité, on dit que les maîtres utilisent des sons intérieurs pour faire apparaître, disparaître des choses. Donc voilà, il y aurait toute une science, une connaissance magique qui serait entre les mains des maîtres de sagesse et des grands initiés, mais heureusement qui n'est pas connue de nous. Donc voilà, pour conclure, on peut dire que vraiment le mantra, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Mais on peut toujours utiliser le Om si on n'a pas de mantra. Si on veut par exemple méditer, on peut très bien laisser résonner le Om, hein, Om, avec l'idée du M, donc de la nasale pure qui vibre et qu'on fait durer. Et cette vibration est censée, disent les Indiens, nous amener au-delà du son. Hein, il y a le son, il y a la vibration, et puis après il y a l'état de non-vibration. Hein, donc il y a.
Donc là, il faut le prononcer, il faut l'entendre,
Il
c'est
faut
pas
le.
juste le penser.
On peut le penser, mais pas en le répétant X fois, mais en le laissant en le lançant en quelque sorte, hein, en le lançant vers notre nature profonde. Hein. Donc on le fait résonner. C'est l'idée d'un cercle, le O et le M, comme les vibrations sur une corde. Et au fur et à mesure, le M devient plus petit, la vibration est de plus en plus ténue. Donc voilà. Ou alors on peut utiliser un mantra pour le répéter X fois quand on n'est pas bien, quand on a besoin de se recentrer, quand on utilise parfois certaines formules comme ça pour se calmer, pour se recentrer, mais c'est pas l'utilisation la plus riche et la plus intéressante du mantra. Alors, dans la lettre M, Olivier, on n'a pas parlé encore d'un thème important dans la spiritualité de façon générale, c'est la méditation.
La méditation, oui. La méditation, on pourrait dire que c'est une technique qui peut avoir quantité de formes différentes, hein. J'imagine qu'il existe des milliers de formes de méditation différentes, mais elle a un but probablement commun, hein, quelles que soient les techniques, et le but, c'est de relier comment dire, la partie incarnée de nous-mêmes. C'est-à-dire l'ensemble de ma personne, si je parle de moi, hein, l'ensemble de ma personne, donc on pourrait dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, cet ensemble qui forme ma personnalité, d'être incarné dans cette vie-ci. Tout cet ensemble-là, la méditation va permettre déjà de peut-être d'aligner ces différentes parties de moi-même, c'est-à-dire les mettre en synchronie un peu, hein, faire que une sorte d'union qui se produise entre le physique, l'émotionnel et le mental, que tout parte pas dans tous les sens.
C'est ce qu'on appelle l'alignement, en fait.
L'alignement, oui. Et tout cet ensemble-là, la méditation a pour but de le relier avec la partie de moi qui s'est incarnée, donc l'être qui s'incarne, l'être profond, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'âme par exemple, ou le soi, pour simplifier peut-être, hein, donc toutes ces parties, cette partie en fait qui est mon véritable moi, hein, qui est ce que je suis au fond de moi-même, et qui s'incarne donc dans cette personnalité. Et donc la méditation va être une technique qui va favoriser le rétablissement de ce lien entre la personnalité et le soi ou l'âme, appelons-le âme si on veut, hein.
Précisons que dans certains systèmes, comme le bouddhiste, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de soi, donc ça serait un principe éternel, omniprésent, qu'on appelle la vacuité, ou le Tao pour le taoïsme. Il n'y a pas forcément une individualité, même subtile, profonde. Hein. On se relie en tout cas à quelque chose de plus grand,
De transpersonnel.
voilà, de plus réel, semble-t-il, que notre personne. Alors il y a
Alors,
plusieurs méthodes, en fait. Hein.
il y a plusieurs méthodes et puis il y a des étapes. La première étape, c'est probablement la concentration. La première chose à faire, c'est arriver donc à aligner ces différentes parties de nous-mêmes et à le faire au départ en travaillant la concentration. Donc, on va lire, par exemple, dans les enseignements de sagesse que il est bien d'essayer de pratiquer la concentration en permanence et d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire, par exemple. Alors, il y a certaines professions qui aident, qui aident à ça, hein, des gens qui vont peut-être, je sais pas, travailler sur ordinateur en permanence, des gens qui vont faire de la comptabilité, des gens qui vont avoir comme ça des métiers qui permettent exigent en fait de se concentrer fortement en permanence, sont des métiers qui vont, bah, ça va être des gens qui vont avoir une vie au cours de laquelle ils vont travailler cet aspect-là des choses, la concentration. C'est la première étape pour arriver à méditer. Et ensuite, il y a plusieurs sortes de méditations, on peut dire aussi. Il y a des méditations qui utilisent comment on appelle ça, une pensée semence, ou des méditations qui n'en ont pas. Alors, utiliser une pensée semence, c'est mettre un but aussi à sa méditation, c'est se dire, voilà, j'ai un problème à résoudre dans ma vie. Alors, je sais pas, je prends l'exemple, j'ai un problème relationnel avec telle personne, mettons, à mon travail. Comment est-ce qu'en me reliant à l'être profond que je suis, je vais pouvoir résoudre ça? Quel éclairage cette reliance va m'offrir et me permet de résoudre ce problème tout concret, tout bête, une difficulté relationnelle avec telle personne? Donc je vais me concentrer d'abord dans un premier temps et faire venir dans mon esprit, dans mon mental, cette question que je me pose. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir des relations justes, correctes avec cette personne?
Donc là, c'est une méditation à un caractère psychologique, en
Voilà,
quelque sorte.
il y a une sorte de pensée semence que je mets au départ. Je médite pas sur le néant là, hein. Je suis sur un avec un but, avec une découverte à faire. Mais je vais pas réfléchir à ça, hein. Je vais pas chercher à mettre à essayer de par le mental, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de mettre les arguments pour, les arguments contre, etc. Non, pas du tout. Je mets juste la problématique dans ma tête quelque part. Et puis je lâche. Je continue à me concentrer et je lâche cette problématique et je fais monter en quelque sorte ma conscience plus haut, peut-être dans la tête. Par le processus d'alignement, donc avec alors moi j'ai dit cette âme ou cette transcendance, hein, peu importe, il va arriver tout d'un coup une réponse à ma question. Si je lâche suffisamment, si je me détache, si je ne suis pas dans l'attente, si je ne suis pas dans le vouloir, si je ne suis pas dans le forcer, j'ai mis la problématique dans ma conscience à un moment et je lâche. Et je me détends et je rentre dans cette méditation. Donc ça passe par un relâchement même du corps physique, un apaisement de l'émotionnel, et puis
Et un vide mental, en
un vide
quelque sorte.
mental en tout cas. Hein, faut pas,
Il faut pas élaborer, il faut pas
voilà, faut pas
conceptualiser.
réfléchir à la question. Hein.
Donc là, c'est une méditation avec l'idée d'une inspiration, d'une lumière. Donc ça, c'est valable pour un problème psychologique, c'est valable pour la créativité aussi de façon générale. Un artiste, quel qu'il soit, un peintre, un musicien, etc., il a des méthodes, des moyens pour élever sa conscience, trouver sa muse à lui, en fait, son inspiration. Donc, on pourrait dire que la méditation a comme effet d'inspirer, d'apporter une lumière nouvelle. Elle peut guérir, elle peut régénérer l'individu, et elle touche à la réalisation du soi aussi. C'est-à-dire que la méditation est avant tout le moyen de contacter soit sa divinité, si on croit à une divinité, soit au principe du Tao, de la vacuité, peu importe le mot qu'on va donner à ce principe profond et ultime. Donc c'est se relier à la réalité avec un grand R. Et à ce moment-là, donc, il peut y avoir des méthodes très diverses, comme tu le disais. Alors l'idée dans toute méditation, c'est que c'est quand même le mental qui crée le pont, hein, le lien avec cette nature profonde. Donc il y a une forme soit de visualisation d'un point de vue purement visuel, je dirais, hein, c'est-à-dire de création d'images créatrices, hein, ou alors parfois il y a, c'est pas vraiment une visualisation, c'est une forme de sonorisation en fait. Hein. On utilise
Utilisation d'un mantra, ouais.
un mantra, il y a parfois des techniques de respiration, il y a parfois les deux ou les trois qui se mélangent. Mais l'idée en tout cas, c'est qu'on prend un outil sur lequel on se concentre intensément. Et quand on se concentre suffisamment, c'est ce que dit Patanjali, celui qui a codifié le Raja Yoga en Inde, hein, le yoga méditatif par excellence, il dit que une concentration soutenue sur un objet précis, donc nous mène à l'état méditatif. Donc plus la chose, l'outil est subtil, léger, profond, plus il est censé favoriser cette montée, cette élévation. C'est vrai que si on se concentre sur les comptes, c'est pas évident qu'on puisse contacter le soi. Alors que si on se concentre sur quelque chose vraiment de, soit une image élevée, c'est pour ça qu'on a représenté aussi des divinités avec des apparats, des symboles, etc. Un mantra élevé. Donc des images, des belles images.
Centré sur une fleur ou sur une flamme d'une bougie. Ou
alors voilà, des choses qui peuvent avoir un caractère très abstrait. À ce moment-là, on se donne tous les moyens, si on persévère dans sa concentration, de pouvoir entrer en méditation. Techniquement, on dit d'un point de vue énergétique que le centre du front, entre les deux sourcils, est le lieu de la concentration. Et plus on se concentre avec cette méthode, avec ce principe-là, avec cette concentration soutenue, avec des moyens abstraits, subtils, à ce moment-là, on éveille le centre au sommet de la tête, Olivier. C'est celui qui est relié à notre nature profonde.
Automatiquement, sans chercher à le faire, du coup.
Voilà. Alors, on peut aussi, il y a des méthodes où on va tourner son regard vers le haut en essayant d'éveiller ce centre de la tête. Mais en tout cas, dans tout contact avec l'âme, entre guillemets, hein, avec notre nature profonde, le centre de la tête va à un moment entrer en activité. Et c'est lui qui va nous transmettre cette énergie qu'on peut sentir, hein, quand on a l'habitude, quand on est assez sensible. On peut sentir, ou même voir, en quelque sorte, une forme de lumière, on a une forme d'éblouissement, on peut avoir une pression sur le haut de la tête. Enfin, parfois l'énergie descend jusque dans la poitrine, hein, dans le cœur. Et là, on a des sensations mystiques, de fusion, d'union, d'amour universel, de compassion. Hein, on peut avoir, c'est les deux grands types d'expériences, hein, soit la grande lumière dans la tête, soit les expériences mystiques, on dit océaniques, les sentiments océaniques, on a dit ça comme ça en langage psychologique. Donc c'est, quand on a ces deux éléments-là, on peut avoir l'information qu'on est probablement entré dans un état méditatif. On ne sort pas de son corps aussi, il faut le préciser, c'est pas un état médiumnique, c'est pas une transe, c'est pas une sortie de corps. On reste bien là, mais on est là avec quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus nourrissant, de plus inspirant. Et c'est censé nous aider dans la vie, ça, Olivier, la méditation. C'est pas pour fuir la vie.
Bien sûr. C'est censé faire qu'on puisse être et vivre plus soi-même, tel qu'on est au fond de nous-mêmes, en fait. Hein. Manifester davantage la vie. Ce que nous sommes au fond de nous-mêmes.
Ça touche à l'art de vivre, ça touche à la créativité. C'est un outil majeur de créativité. Alors on l'accompagne aussi beaucoup avec la notion de service. La méditation nous fait entrer en contact avec notre âme et notre âme veut servir. Donc à ce moment-là, on se sent plus responsable, plus engagé, plus fraternel. On a envie, on ressent le besoin que cette créativité s'exprime dans notre vie. C'est peut-être ce qu'on appelle le service, le sens du devoir.
On cherche à avoir une utilité sociale.
Voilà, le bien commun. Mmh. On recherche le bien commun, pas seulement entre les hommes, mais entre les animaux, au niveau de la nature elle-même, au niveau de la terre, l'écologie. C'est une forme de conscience aussi spirituelle, on peut dire, à un niveau, hein, de se sentir uni au tout. Donc voilà, on peut dire que la méditation est une très bonne chose. On encourage tout le monde à s'aventurer sur le chemin de la découverte du soi.
Alors peut-être aussi quand même avec un peu de prudence, non ?
Oui, ne pas rechercher les pouvoirs psychiques, les expériences extraordinaires.
Ne pas être extrême dans sa pratique. Hein.
Voilà, prendre le temps et lire des ouvrages sérieux, spécialisés dans le domaine, suivre un enseignement précis, même traditionnel, si c'est possible, à ce niveau-là. Le zen, par exemple, il y a beaucoup de gens qui commencent parfois en faisant du zen. Pas du zèle, mais du zen. Mmh. Une méthode simple qui permet, en tout cas une méthode qui permet de se concentrer. Et si elle est traditionnelle, souvent, on a une forme de sceau, on a une forme de garant, de sécurité, de voie juste.
M toujours aujourd'hui, et là je tombe sur le mot mental. Le mental, qu'est-ce qu'on dit, la sagesse ancienne?
On trouve souvent le synonyme en sanskrit manas. C'est intéressant de ce mot manas parce que ça vient d'une racine man en sanskrit qui veut dire penser. Ça donnait le mot man en anglais,
Donc
l'homme.
l'homme.
Ça donnait la main, le propre de l'homme, hein, qui est l'outil de notre pensée aussi en quelque sorte. Hein. Donc on voit qu'on est dans une caractéristique propre à l'homme, hein, le fait de penser. En ésotérisme, Olivier, on parle de deux types de mental. En tout cas, on parle d'un grand plan mental qu'on peut, grosso modo, découper en deux parties.
Oui, alors il faudrait peut-être expliquer ce qu'on entend par plan dans l'histoire et quel rapport avec l'être humain peut-être. Donc l'être humain est composé, on l'a dit souvent, hein, de plusieurs corps, en quelque sorte, hein, le corps physique, le corps émotionnel, donc qui est fabriqué de matière émotionnelle et qui cette matière est dans laquelle vibrent nos émotions. Et aussi, nous sommes fabriqués avec un corps mental. Qui est fait de matière mentale, donc, et dans cette matière se déroule le processus de nos pensées qui, d'un point de vue du mental, sont des véritables choses, on pourrait dire, en tout cas des formes, hein, c'est pour ça qu'on parle de formes pensées. Et alors, ce corps mental lui-même peut être subdivisé en plusieurs plans, en plusieurs niveaux, en plusieurs strates. Hein, de même qu'on voit bien qu'au niveau de notre corps physique, ça se divise, on peut le diviser en corps physique solide, en corps physique liquide, en corps physique gazeux. Hein. Eh bien, pour le mental, on peut aussi imaginer comme ça qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux de mental, avec un mental, pour simplifier, un mental inférieur, qui serait le mental qui nous permet de classifier les choses, qui nous permet de prendre notre train à l'heure, hein, de faire attention à quand on traverse la route, un mental qui nous permet d'agir dans le concret au quotidien, un mental concret, on peut dire,
D'être logique, de réfléchir. C'est le mental qu'on connaît habituellement. Hein.
d'analyser, de
Quand on dit
classifier.
mental, en ésotérisme, c'est le mental inférieur, en fait. Hein. C'est celui-ci qu'on entend hein, par
Et un
mental.
mental supérieur qui est là, le siège peut-être d'où proviennent les intuitions, d'où proviennent la créativité, d'où proviennent en fait quelque chose qui n'est presque plus, qui relève presque plus de l'homme incarné, mais qui relève d'une transpersonnalité, quelque chose de supérieur.
En ésotérisme, on dit que sur ces couches, ces niveaux supérieurs du mental, se trouve notre âme individuelle. Donc on parle aussi de mental abstrait, ou de mental supérieur. Donc mental abstrait, supérieur. On dit que le corps causal, le corps de l'âme individuelle, une forme de lotus se trouve sur les couches supérieures. Et qu'en fait, quand on essaye de penser abstraitement, c'est-à-dire au-delà des choses concrètes, en fait, automatiquement, on entre. Par la philosophie, par exemple, on entre dans le domaine de l'âme. Si on essaie de trouver, de réfléchir au néant, si on essaie de penser à ça, intensément, on va rentrer dans une méditation philosophique. Donc tous les principes comme ça abstraits qui ne sont pas de ce monde, mais qui renvoient à quelque chose qui préexiste à ce qu'on peut voir, nous met en contact avec le monde de l'âme. Plusieurs philosophes ont dit que si on a la notion d'infini en nous, c'est quelque chose en fait qui comment on ne peut pas le concevoir mais on l'a en nous. C'est curieux quand même, hein. On a plein de notions comme ça. Mais c'est vrai que l'infini, personne n'a fait l'expérience de l'infini en fait. On fait constamment l'expérience du fini parce que quelque chose est en nous qui est relié à cet infini et on a une sorte de mémoire, de perception innée, d'instinct presque. Donc tout ça c'est dans le mental supérieur qu'on a ces grandes idées en fait, hein.
Est-ce que l'idée de Dieu pourrait aussi provenir de cette donc c'est une réalité de Dieu en tant qu'infini, hein, en tant qu'absolu, pourrait venir de cette existence qui peut être captée par ce mental supérieur, ce mental abstrait,
C'est ce que pensait Platon, hein. Il pensait que quand lui appelait raison pure, c'est nous ce qu'on peut appeler ici comme mental supérieur, comme âme, c'est l'idée que chaque être humain a en lui le monde des archétypes, que le monde des archétypes peut être reflété. Lui, il appelait ça le nous, qui était une notion de mental supérieur, hein. Qu'on a en nous cette raison pure, et c'est pourquoi même chez les analphabètes, il arrivait par la méthode de son maître, hein, La maïeutique à faire accoucher les esprits, c'est une belle expression, c'est l'idée que chacun peut trouver en lui la vérité, le bien, le beau, le vrai, qu'on peut avoir accès à ça. Et ça, c'est le mental supérieur qui nous donne...
C'est pour ça qu'on dit aussi que chacun peut avoir une expérience du soi avec un grand S,
Oui.
quel que soit son niveau de d'éducation, de qu'il ait réfléchi à tout ça ou pas, en fait.
L'idée, c'est que dans le mental supérieur, donc dans notre âme, est reflété ce soi, cet absolu. C'est vraiment ouais, c'est une sorte de miroir, en fait. D'ailleurs, on dit réfléchir, c'est intéressant, hein. On réfléchit, la réflexion de la lumière supérieure se fait grâce à ce mental supérieur. C'est vraiment, en fait, on pourrait dire qu'on pense en dessous, hein, c'est-à-dire qu'on élabore des formes pensées, des phrases, des mots, etc. Mais avant, on réfléchit la lumière par ce mental supérieur.
Alors que donc le mental inférieur, c'est là où on va inventer par exemple un dieu assis sur sur les nuages avec une grande barbe.
Voilà, pour essayer, on essaye de traduire ce qui est impalpable, ce qui est abstrait, en tout cas ce qui doit rester avec une forme. Alors il y a une forme dans le mental abstrait, mais c'est très très subtil et on a besoin de donner une forme concrète à ça. Et en fait, c'est comme ça qu'une idée devient des concepts, des phrases, des pensées au pluriel,
Des idéaux.
des idéaux. Des représentations, on peut voir qu'on représente des divinités. En Inde, par exemple, on a beaucoup eu besoin de représenter des divinités parce que le peuple a besoin de se représenter Dieu. Alors on prend une divinité avec souvent une tête d'éléphant, par exemple, ce genre de choses qui parlent aux gens. Et ça, c'est le mental inférieur. Alors que quand on essaye de concevoir même un triangle parfait, on peut voir par les mathématiques aussi. On peut rentrer dans ce monde du mental abstrait. On parlait tout à l'heure de l'infini. Est-ce qu'il y a un commencement au temps? Enfin, toutes ces questions-là appellent en nous pour même essayer de comprendre la question, hein. On est obligé déjà d'activer, de rentrer en contact. On monte son niveau de conscience. Donc c'est une forme de méditation philosophique et on peut dire que toutes les formes de méditation, pas seulement philosophique, hein, mais par les mantras, par une visualisation et autres. C'est l'art de passer du mental inférieur au mental supérieur, en fait. On crée un pont par une forme pensée, hein, un outil sonore, visuel, qu'on construit. C'est comme un fil de lumière, hein, qu'on tisse comme ça. Alors plus la personne utilise son mental abstrait, plus elle est inspirée, en fait, hein. Et on peut dire que Mozart avait accès à son mental abstrait et que c'est comme ça qu'il peut ramener. Ramener, c'est ça l'idée qu'on fait un voyage, hein, qu'on ramène cette lumière supérieure et qu'on traduit ça à travers des symphonies, des opéras, ça peut être des peintures, peu importe. Plus un
Donc,
être est inspiré, plus il est créatif. Hein.
Donc il y a la source de la création, de la créativité, donc ce mental supérieur et le mental inférieur qui va faire qu'il va être capable d'écrire les notes qui
Voilà,
correspondent.
il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait l'instrument en dessous. Donc il faut que l'éducation, l'érudition, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'école, d'être éduqué, le langage, etc. Tout ça c'est important pour avoir les outils. Mais si on est un scientifique comme Einstein, on a la perception, l'intuition qu'il y a une relativité générale, et puis même restreinte à la base, hein. E égale à MC2, ça c'est la traduction scientifique, hein, c'est le mental concret. Mais derrière, il y a l'idée que l'énergie est égal à la matière et que l'un et l'autre passent allègrement, qu'il y a un passage constant, il y a une idée derrière. Et E égale MC2 est la traduction par le mental concret et quand on dit inférieur, c'est pas négatif en fait, hein, ça peut être même très élaboré, hein. Mais il y a besoin, nécessité d'avoir les instruments dans son mental, dans sa culture aussi, pour pouvoir traduire,
Incarné quelque part.
incarner, voilà. On pourrait dire que le mental inférieur incarne la lumière, les valeurs, les idées du mental supérieur. La très belle idée de Platon, c'est que il y a un monde des archétypes. Il y aurait une forme de grand réservoir d'intelligence universelle, et que notre mental à nous supérieur le refléterait. Hein? Donc on réfléchit, on peut saisir les idées de Dieu à travers notre mental, notre raison. Et à ce moment-là, on le traduit, et peut-être que ce qu'on appelle la culture, c'est tout simplement une traduction à un moment donné, pas seulement en langage religieux, scientifique, mais culturel de façon générale. On traduit des grandes idées qui viennent à certains moments. On découvre des choses à différents endroits de la planète en même temps. On a un mouvement artistique en même temps. On a des grands mouvements pensés, philosophiques, des grands mouvements politiques, etc. On peut dire que ça, c'est une traduction dans le mental inférieur de quelque chose qui est éveillé, stimulé dans le mental supérieur. Donc c'est important. On est vraiment doté du mental supérieur. On a un mental inférieur. Et ce qui nous différencie de l'animal, on l'a pas dit quand même, c'est ça. C'est qu'on a, l'ésotérisme dit que l'âme individuelle est dans le mental supérieur, et c'est elle qui nous permet de dire dans le mental inférieur je, de penser même qu'on est je, qu'on est un être à part, qu'on est conscient de soi. Alors ça peut après développer l'ego, l'orgueil, ou même le sens de la personne, mais sans âme, on ne pourrait pas avoir ce sentiment-là d'individualité. Et ça vient du mental abstrait. C'est le propre de l'homme.
Lettre M toujours pour ce dictionnaire de sagesse ancienne. Lettre M et je tombe sur le mot. Alors là, c'est un mot sanskrit apparemment. Maya virupa. Maya, c'est l'illusion, non?
Alors à la base, Maya, ça ne veut pas dire illusion, ça vient d'une racine sanskrite qui veut dire mesurer. Donc la Maya, c'est en fait l'espace-temps en quelque sorte, hein. Et c'est du point de vue du
Donc c'est
soi,
l'incarnation alors?
c'est l'incarnation, ça a une notion aussi magique. Hein, on parle de yoga Maya parfois, hein, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est les vêtements du soi en fait, la Maya. Donc ça a été après associé à l'illusion. Mais c'est le symbole de la mère, hein, la Maya aussi, hein, de la Shakti, de la Devi, de la déesse. Hein. Donc la Maya, c'est ce qui va revêtir le soi, hein, l'esprit. Hein. Et donc ça a été synonyme d'illusion, mais à la base, d'un point de vue métaphysique, ça serait l'espace-temps. On peut dire dès que le revêtement, l'espace arrive, le temps est forcément, parce qu'il y a des mouvements dans cet espace. Donc Maya Virupa, c'est le véhicule. Donc on dirait c'est un véhicule de substance ou un véhicule illusoire, fait par le yoga aussi. Hein. On a l'idée en Inde que les choses peuvent être accomplies par la yoga maya, c'est-à-dire c'est par la magie du yoga. C'est-à-dire qu'on peut agir sur la substance à différents niveaux. Alors elle est illusoire du point de vue du soi, d'accord, mais et on peut créer des formes. Alors on peut créer des formes pensées dans la substance mentale. Et dans le plan énergétique, qu'on appelle éthérique, ou le plan du prana ou du chi, dirait le chinois, du ki pour le japonais, hein, on peut, donc dans ce monde informel, substantiel, hein, on peut créer des formes. Et techniquement, alors il y a même dans le bouddhisme tibétain une technique pour créer son Maya Virupa. Ça fait partie des 6 formes de yoga qu'on trouve, le yoga Naropa, on dit dans le bouddhisme tibétain, et il y a donc un des yogas, c'est le yoga, la voie pour créer son corps illusoire. C'est incroyable quand même, hein. Les Tibétains se sont entraînés à pouvoir créer des formes illusoires.
Ça veut dire quoi? Une sorte de duplication de soi-même?
Ça peut être une duplication de soi-même, ou ça peut être, par exemple, la manifestation, la création, la matérialisation d'une idée ou d'une divinité. Est-ce que tu as lu Olivier, mystique et magicien du Tibet,
Oui,
d'Alexandre
ça fait
Lévy?
longtemps,
Oui.
hélas, oui.
Elle raconte comment pendant des mois, voire des années, certains adeptes tibétains visualisent une divinité, hein, sur un tanka, hein, une grande représentation. Elles l'ont tellement visualisé qu'elles le créent en substance mentale, en pensée, et elles arrivent au fur et à mesure à créer une forme nuageuse, hein, nébuleuse, et plus l'adepte s'entraîne, plus il arrive à la densifier, au point de créer un être extérieur à lui-même. Donc, Alexandra David Nielsen, elle a joué un peu le rôle d'anthropologue, hein, quand elle est allée au Tibet, et elle a vraiment elle-même fait l'expérience de ça, et elle a vu qu'au à force d'utiliser cette méthode, elle pouvait commencer aussi à créer une forme de double. Alors, elle n'était pas assez puissante pour le rendre dense physiquement, mais certains adeptes ont une telle puissance de concentration répétée pendant des années qu'ils arrivent donc à créer soit un double d'eux-mêmes, ou alors une forme de divinité extérieure. C'est quelque chose qui est complètement illusoire. C'est ça que les maîtres appellent le Maya Virupa. Et les maîtres de sagesse, ce sont des êtres parfaits qui ont la capacité, par leur mental complètement maîtrisé et par la connaissance des lois de la nature, de créer un Maya Virupa. Et souvent, ils l'utilisent. On parle de familier aussi.
Donc c'est un corps, hein, un corps physique
C'est
d'un homme ou d'une femme.
Voilà, et ils peuvent l'utiliser, l'animer même à distance. Et ça rejoint le phénomène des saints chrétiens, pas seulement chrétiens d'ailleurs, l'idée de bilocation. C'est-à-dire qu'on puisse être à plusieurs endroits à la fois, ce qui est pas possible techniquement, enfin,
Sauf que là, c'est une
naturellement.
bilocation consciente chez les maîtres de sagesse.
Voilà, et puis
Et
aussi chez les saints,
voulu maîtriser, quoi.
ils projetaient tellement leur être, ils avaient une telle puissance qu'ils arrivaient à créer l'apparence et l'illusion qu'ils étaient présents à tel ou tel endroit. Alors ça, dépendant de la concentration et de la maîtrise du processus, on a quelque chose qui peut être tangible, animé, qui peut parler, qui peut, et c'est une forme de corps auto-créé. Alors on dit nirmanakaya dans le bouddhisme, c'est la notion de un corps fabriqué. Et on dit que les bouddhas s'incarnent dans des corps fabriqués. C'est la même notion. C'est assez magique, mais en Orient, c'est une croyance très ancienne et très populaire que la divinité peut se manifester, se créer.
Donc ça existe, mais c'est quand même pas fréquent.
Ah non, c'est pas fréquent. Voilà, merci Olivier, merci à tous.
Merci David, et au mois prochain.